Appeler une victoire par son nom, par Serge Halimi. En octobre 2009, le monde diplomatique fit appel à ses lecteurs. Notre journal venait d'essuyer 3 années de pertes financières et, comme beaucoup d'autres, il voyait chaque année sa diffusion se tasser. Autant dire que son existence, ou ce qui revenait au même, son indépendance, n'était plus assurée. 8 ans plus tard, cette menace est levée. Les motifs de satisfaction n'étant pas innombrables en ce moment, il est aussi utile que réconfortant d'analyser celui qui nous concerne directement. D'autant qu'il comporte une dimension plus générale, intellectuelle et politique. Le tirage d'un journal ne démontre assurément pas sa qualité. Mais chaque fois qu'il exprime un courant d'opinion, une philosophie, pas une marque, un produit, son affaiblissement suggère qu'il cesse d'être utile, qu'on n'a plus besoin de lui. En 2009, nous avions fait le pari que tel n'était pas le cas du monde diplomatique, et nous vous avions demandé de nous le confirmer en nous adressant des dons, en vous abonnant, en achetant plus régulièrement le journal. Nous avions souligné alors que l'information gratuite n'existe pas, que quand le travail des journalistes est offert, ceux-ci ne dépendent plus de leurs lecteurs, mais des moteurs de recherche et des publicitaires. À l'époque, cette démarche et cette analyse étaient singulières. Notre appel a été entendu. Depuis 2009, nous avons reçu 16 700 dons pour un montant total de 1 629 000 euros. Le nombre de nos abonnés a atteint un record historique, passant de 81 000 à 94 000 le mois dernier. Nos ventes de journaux papier n'ont pas été sacrifiées au tout numérique. Notre diffusion totale a tenu bon et donne même depuis 3 ans des signes indiscutables de vigueur, plus 20,5%, contraire à la tendance générale de la presse. Dans le même temps, nous avons enregistré une progression fulgurante du nombre d'abonnés à nos archives. Lancée en 2013, cette ressource documentaire compte aujourd'hui plus de 35 000 souscripteurs, conscients que l'actualité du monde ne se résume pas aux 3 dernières controverses de la semaine. Quelle autre publication française peut proposer à ses lecteurs, sur des thèmes aussi divers que ceux que le monde diplomatique aborde depuis mai 1954, l'intégralité de 63 années d'archives? Bientôt, les 20 dernières seront disponibles en 3 autres langues que le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand, en attendant le portugais, l'italien et l'arabe. Ces succès et l'état de nos comptes nous conduisent à interrompre nos campagnes annuelles d'appel aux dons. Le dispositif demeure en place, notamment via notre site, pour qui voudrait consolider notre situation financière et accroître nos réserves dans la perspective d'un éventuel hiver. Mais il ne présente plus de caractère d'urgence. L'avenir de ce journal est garanti, au moins pour quelques années. Autant appeler une victoire par son nom. Par conséquent, notre objectif se transforme. Plutôt que d'assurer la survie d'une publication, il s'agit dorénavant d'élargir la diffusion des idées qu'elle porte, de passer en somme de la défensive à la conquête. Dans cette optique, nous maintiendrons le prix du monde diplomatique à son niveau actuel, inchangé depuis 2013. Par ailleurs, nous alimenterons le fonds spécial Lecteurs Solidaires, qui depuis exactement 30 ans, grâce à nos lecteurs, offre des abonnements à des institutions, bibliothèques et universités dans les pays pauvres, ainsi qu'à des maisons d'arrêt françaises. Nous vous suggérons en outre de parrainer pendant 1 an un nouvel abonné avec l'espoir qu'il choisira ensuite, directement, de prolonger l'expérience. Très prochainement, vous pourrez enfin contribuer avec nous au réseau international solidaire que nous comptons lancer pour conforter nos éditions internationales. Certaines ne se maintiennent à flot que grâce à un dévouement militant, d'aucuns diraient un apostolat, peu courant dans l'univers du journalisme. Quelles leçons tirons-nous de notre redressement? La conviction que, quand un journal n'est pas conçu comme une marchandise, il doit pouvoir compter sur l'engagement de ses lecteurs, lequel est sans doute d'autant plus fort dans notre cas que nous continuons à accorder la priorité à l'actualité internationale, largement sacrifiée ailleurs, et que sous l'impulsion de Claude Julien puis d'Ignacio Ramonet, nous avons été les éclaireurs de la critique des médias. Au fil du temps, celle-ci a suscité nombre de réactions offusquées. Désormais, elle est imitée par des ouvriers de la 25e heure, parfois accompagnés de quelques repentis. Bienvenue à eux, ceux qui, comme nous, entendent se battre efficacement sur le front des idées, se dispensent d'exiger passeport et droit d'auteur. Le monde diplomatique n'a pas seulement dressé l'acte d'accusation du journalisme réellement existant, concentration capitaliste, pensée unique, enfermement bourgeois, connivence et complaisance. Nous lui avons opposé une autre pratique professionnelle. Notre critique en acte du journalisme, qui se donne à lire tous les mois, ne se résume pas au refus du tropisme libéral et européen de la quasi-totalité des médias, car nos « confrères » ont fini par le comprendre. Le discrédit du politicien balourd, débitant son prêt-à-penser, entache à présent la réputation et donc la valeur marchande de la presse qui l'accompagne comme son ventriloque. Les dirigeants éditoriaux ont donc choisi de mettre en avant une autre figure professionnelle que nous récusons tout autant, celle du reporter neutre, sans idéologie, décrypteur, décodeur, à qui on ne la fait pas, qui butine d'une conviction à l'autre, prétend ne jamais s'engager. Son professionnalisme consiste à choisir les petits faits vrais, à les présenter sans commentaire, à préférer les choses vues, surtout si elles sont poignantes, à l'analyse raisonnée des rapports sociaux et internationaux, à rejeter hors du domaine de l'information les idées jugées extrêmes, tout en faisant des autres, c'est-à-dire des siennes, l'alpha et l'oméga de tous les débats. Ainsi, le ronronnement serait permanent et la fiction du pluralisme assurée. Si la concurrence pour l'audience appauvrit souvent l'information, la neutralité conçue comme l'écrêtement des opinions divergentes entraîne un autre coup. Chassés des pages d'opinion, des plateaux télévisés et des joutes théâtralisées entre compères et confrères, les dissidents politiques de tous bords créent leurs revues, leurs chaînes, leurs publications. Par un retournement de situation savoureux, ils profitent du discrédit du journalisme institutionnel, puisque figurer au banc de la corporation est presque devenu un gage de confiance, une lettre de crédit, une légion d'honneur. Notre honneur à nous est ailleurs. L'information que nous publions provient autant de journalistes que d'universitaires, d'écrivains et de chercheurs. Aussi soigneusement sélectionné soit-il, un fait ne prend son sens qu'une fois situé dans un contexte historique, politique et culturel. Au fil du temps, producteurs de connaissances et membres de l'équipe du journal ont donc noué des relations destinées à rendre accessibles des travaux qui permettent de comprendre le monde, dans l'espoir d'en infléchir le cours. Oui, cela demeure notre objectif, et nous savons qu'il nous reste du pain sur la planche. Depuis un an, plusieurs événements coproduits par les grands médias ont confirmé notre singularité. En France, M. Emmanuel Macron a été propulsé au pouvoir par un électorat de centre-gauche grâce auquel il conduit une politique de droite. Dans cette mystification d'une fraction de l'opinion, la presse a joué sa partie. En particulier les journaux et sites d'information catalogués à gauche, qui parfois appuyèrent M. Macron avant le premier tour. Le 28 septembre dernier, l'Obs affichait, comme souvent, la photographie du président de la République en couverture, mais cette fois avec ce titre accusateur. « Pourquoi il donne aux riches ?» Pourquoi ? Parce que l'Obs l'a fait élire. Avec, avouons-le, presque tous les autres organes de presse, mais sans nous. Résultat, Le Point croit rêver d'avoir hérité d'un président aussi libéral. Et Le Figaro évoque un petit miracle. Bientôt, son propriétaire Serge Dassault paiera en effet moins d'impôts. Lorsque nous exposons les ressorts du pouvoir, la situation internationale nous appelle également à nous prémunir des dangers de l'indignation indignée, de l'opposition qui contente les mécontents, de la chambre d'écho des médias et des réseaux sociaux qui isole et parfois abrutit. Depuis l'élection de M. Donald Trump, plus une heure ne s'écoule sans que la majorité de la presse occidentale ne détaille les travers, les turpitudes et les méfaits de l'occupant de la Maison-Blanche. La matière, inépuisable, permet aussi à ceux qui en ont le plus besoin de se construire à bon compte un profil de progressiste. Mais l'exercice aboutit également à composer un nouvel axe du mal, largement fantasmé, en y adjoignant en général M. Vladimir Poutine. Que M. Trump et lui s'opposent sur des sujets aussi dérisoires que l'Iran, la Corée, l'UNESCO, Cuba, le réchauffement climatique, l'Ukraine, le Venezuela, la Syrie, ne méritent plus d'être rapportés, car tout cela est balayé par le soupçon que le président russe aurait des sympathies pour son homologue américain. La CIA, qui n'a bien entendu jamais menti et qui s'est toujours scrupuleusement tenue à l'écart de la vie politique des autres pays, prétend en effet que le Kremlin serait indirectement impliqué dans la diffusion d'informations hostiles à Mme Hillary Clinton, ce qui expliquerait sa défaite imprévue. Ces fake news, ces fausses informations concoctées par Moscou, l'OTAN va s'employer à les combattre. Elle le fera avec une certaine expertise puisque, au moment de la guerre du Kosovo en 1999, l'OTAN détaillait elle-même ses techniques pour anesthésier les opinions en cas de bavure militaire. Je cite « Nous disions que nous menions une enquête, que les hypothèses étaient multiples. Nous ne révélions la vérité que 15 jours plus tard, quand elle n'intéressait plus personne. » Mais si ce genre de vérité n'intéresse plus personne, nous, il nous passionne. S'en soucier constitue un peu ce qui nous distingue. Et nous appelons ce genre de rappel, de retour en arrière, de regard en biais, une mise en perspective. Elle nous retient souvent de hurler avec les loups. Elle exige un peu de mémoire et davantage d'efforts intellectuels que l'envoi compulsif d'une douzaine de tweets sur la dernière polémique du jour. Ne t'inquiète pas, chante la rappeuse française Kenny Arcana. Laisse-nous te bercer à voix basse. Laisse-nous te raconter des histoires. Laisse-nous réfléchir à ta place pendant que tu te divertiras. Ces vers résument le journalisme que nous combattons. Celui que nous produisons a encore, grâce à vous, l'avenir devant lui.
Ne t'inquiète pas, on gère les choses. Tu peux continuer à dormir du sang et des larmes sur la terre des hommes. Faut bien vendre des missiles et de la torpille. Oui, ça fait un bail que la paix est morte. On manie les mots et les projets sordides. Nous sommes à la fois les pyromanes, les pompiers. Et on te vendra la porte de sortie. Oui, mais ne t'inquiète pas. Si les armes se propagent à toute vitesse, si la drogue assassine, c'est bon pour le business. Le gain, ça se mesure et pas la tristesse. Alors laisse et ne t'inquiète pas. Lundi sort la nouvelle série 7, tu vois, ne t'inquiète pas. Et si t'as peur, il y a le 17, alors ne t'inquiète pas. Si la détresse enflamme la terre, jusqu'à voir des jeunes commettre l'impardonnable. Des familles innocentes sous les feux de la guerre. Et non, ton village ne sera même pas nommable. Des serreux en calage qui se cachent derrière Dieu contre la foi de l'autre. Des forces impérialistes qui bombardent des enfants, des vieux au nom des droits de l'homme. Mais ne t'inquiète pas. Laisse-nous te bercer à voix basse. Laisse-nous te raconter des histoires. Laisse-nous réfléchir à ta place pendant que tu te divertiras. Laisse-nous faire à huis clos la tendance qui concerne ta planète. T'inquiète pas, demain sort le dernier smartphone et tu pourras dormir.
Le monde diplomatique.
On s'arrête.
On réfléchit.